Chapitre 2. Souvenirs de San Domingo. La nuit était étouffante. Ne pouvant dormir, Francine restait tranquillement assise sur son lit, occupée à réfléchir. L'objet de ses méditations était tout simplement sa femme de chambre. Qu'était-ce que Mistress Elmother ? Elle avait dit à Émilie que son but, en cherchant une nouvelle place, était d'échapper à ses propres pensées. Elle admettait comme article de foi la croyance légèrement superstitieuse qui désigne le vendredi comme un mauvais jour. Elle y ajoutait l'axiome qu'il est prudent de jeter une pincée de sel par-dessus son épaule quand on a eu la malchance de renverser la salière. En elle-même, ces particularités n'avaient pas grande importance. Mais par un enchaînement d'idées que Francine ne pouvait comprendre, elle la ramenait à San Domingo, aux côtés de Sappho, l'esclave. La jeune fille alluma une bougie, ouvrit son bureau et en retira un vieux livre de comptes. La première page ne contenait que des notes de dépenses écrites de sa main. Jadis, pendant une heure d'oisiveté, elle avait voulu conjurer l'ennui en partageant avec sa mère les soins de la maison. Cet accès d'humeur laborieuse s'était éteint au bout de 3 jours, et pourtant le reste du livre n'était pas vide. Les pages en étaient couvertes d'une belle écriture, fine et régulière. Francine s'était chargée de donner un titre à ce manuscrit. En tête du deuxième feuillet, elle avait écrit « Les niaiseries de Sappho ». Après avoir parcouru 2 ou 3 lignes du commencement, elle passa brusquement à la fin du volume, où, sur un espace laissé en blanc, se trouvait un autre titre, moins dédaigneux cette fois, « Sappho revenu au sens commun ». Francine lut la dernière partie du manuscrit de Sappho avec une extrême attention. « Je prie ma jeune maîtresse de ne pas s'imaginer que moi, qui ai reçu une bonne éducation, je crois encore à la magie. Quand j'ai écrit, pour lui obéir, tout ce que je lui avais raconté de vive voix, je ne sais quelle fantaisie me poussait. Vous dites, chère maîtresse, que j'ai un côté nègre, hérité de ma mère. C'est peut-être une plaisanterie, mais parfois je crains que ce ne soit trop vrai. Prenez donc garde que je ne vous induise en erreur. Il est bien vrai que l'esclave dont je vous ai parlé a langui et succombé après qu'on lui eut jeté un sort à l'aide de l'image de cire faite par ma mère la sorcière. Mais j'aurais dû ajouter que certaines circonstances ont particulièrement favorisé l'œuvre du charme funeste. Le résultat final ne fut point amené par des moyens surnaturels. Le malheureux était déjà mal portant et notre maître l'avait envoyé dans une vallée au milieu des terres. Or, on m'a dit, et je le crois volontiers, que le climat en est bien différent de celui de nos côtes où le misérable était habitué à vivre. Le régisseur refusa de le croire quand il lui jurait que le séjour dans la vallée serait sa mort et les autres noirs qui auraient pu le secourir s'écartaient tous de l'ensorceler. Ceci, vous le voyez, explique ce qui pourrait paraître incroyable à des esprits cultivés. Si vous voulez me faire plaisir, vous brûlerez ce petit livre dès que vous en aurez lu le contenu, à tout le moins que pas d'autres yeux que les vôtres ne voient jamais ces pages. Ma vie serait en danger si les noirs surprenaient jamais mes aveux. Francine ferma le volume et le remit en place. « Je sais maintenant, se dit-elle, ce qui m'a rappelé San Domingo. » Lorsqu'elle sonna le lendemain, on fut longtemps sans répondre à son appel. Mistress Elmother, quand elle entra enfin, s'excusa de son retard involontaire. « C'est la première fois que je m'oublie dans mon lit, miss, depuis ma petite jeunesse. Veuillez me pardonner, cela ne m'arrivera plus. »« Est-ce la chaleur qui vous assoupit ?» demanda Francine. « Je n'ai eu un brin de sommeil que sur le matin. C'est ce qui fait que j'étais si pesante au moment de me lever. Mais la température, chaude ou froide, n'a rien à voir là-dedans. Ce sont les gens riches qui peuvent avoir des fantaisies. Pour nous autres, l'air est partout le même. « Vous avez une bonne santé, Mistress Elmother ?»« Mais oui, miss, pourquoi non? De ma vie, je n'ai consulté un médecin. » Peut-être que vous n'avez pas une très flatteuse opinion des docteurs. J'aime mieux ne jamais être entre leurs pattes, miss, si c'est cela que vous appelez une flatteuse opinion, répondit Mistress Elmother. Quelle coiffure voulez-vous aujourd'hui? La même que celle d'hier. Avez-vous revu Miss Emily? Elle est partie pour Londres le lendemain de votre visite.
Je ne suis pas restée à Londres. Dieu merci, j'ai trouvé un bon locataire.
Où demeuriez-vous alors, en attendant de venir ici?
Je n'ai qu'un endroit où aller, Miss, mon village. Une amie que j'ai encore m'y garde un coin pour me reposer à l'occasion.
Ah, quel gentil endroit!
Un endroit comme celui-ci?
Allons donc, il ne lui ressemble pas plus que du fromage à de la craie.
Une belle vaste plaine de bruyères, Miss, dans le Cumberland, sans un arbre en vue, de quelque côté qu'on se tourne. Je vous promets que le vent y souffle de la bonne façon.
Connaissez-vous ce pays-ci?
Non, quand j'ai quitté le Nord, c'était pour suivre ma maîtresse au Canada. On parle de l'air, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on en a dit. Les gens de là-bas doivent vivre 100 ans. J'aime le Canada.
Où vous êtes-vous placé ensuite?
Jusque-là, Miss Drizelmother avait paru disposer à la causerie. Cette fois, elle resta silencieuse, soit qu'elle n'eût pas entendu la question de Francine, soit qu'il lui déplût d'y répondre. Francine, suivant son habitude, s'obstina.
Votre dernière place n'a-t-elle pas été auprès de la tante de Miss Emily?
Oui.
La vieille dame habitait-elle Londres?
Non.
Dans quelle partie de l'Angleterre demeurait-elle?
Dans le comté de Kent.
Dans les Houblonnières?
Non.
Où cela, alors?
Dans l'île de Thanet.
Tout près de la côte?
Oui.
Francine n'osa pas insister davantage. La réserve de Miss Drizelmother l'emporta, au moins pour ce jour-là, sur son opiniâtreté.
« Allez donc voir dans le vestibule s'il n'y a pas une lettre pour moi, » dit-elle. Il s'en trouvait une portant le timbre de la Suisse. La candide Cécilia avait été charmée de la lettre de Francine et attendait avec impatience le moment où leur relation, de courtoise, deviendrait amicale.
Miss de Sort voudrait-elle, laissant toute vaine cérémonie, devenir l'hôte du père de Cécilia dans le courant de l'automne? La santé de la malade ne leur permettait de revenir en Angleterre que vers la fin du mois. À cette époque, Cécilia espérait apprendre que Francine était libre d'accepter son invitation. Son adresse en Angleterre était à Monksmoor Park, Hants. La lecture de cette lettre achevée, Francine en tira cette aimable conclusion. Une sotte peut être très utile si on sait la conduire. L'heure du déjeuner la trouvant sans appétit, elle essaya d'une promenade sur la terrasse. Alban Morris avait raison, l'air de Netherwood, en été, était décidément très lourd. Le lendemain, Miss Drizelmother répondit sans délai à l'appel de la sonnette.
« Vous avez mieux dormi cette fois ?» demanda Francine.
« Non, Miss, je n'ai eu qu'un sommeil plein de rêves. C'est une autre mauvaise nuit. »
« Lorsque je vous ai vue chez Miss Emily, vous parliez de vous débarrasser de vos souvenirs. Le changement de résidence a-t-il produit cet heureux résultat ?»«
Non, il y a des gens que leurs souvenirs ne veulent pas lâcher. » »«
Cela arrive surtout quand les souvenirs sont mêlés de remords. » »«
Je croyais, Miss, qu'il avait été convenu que vous me laisseriez en repos là-dessus. »
Une semaine se passa. Un jour, profitant de l'heure de la récréation, Miss Ladd vint frapper à la porte de Francine.
« Ma chère, je désire vous parler de Miss Drizelmother. Elle a l'air malade. »«
Croyez-vous, Miss Ladd, je la trouve pâlie, rien de plus. »«
C'est cependant sérieux, Francine. Les domestiques me disent qu'elle mange à peine et elle-même convient que ses nuits sont mauvaises. » Hier, d'une des fenêtres de la salle d'études, je la regardais traverser le jardin. Une de nos petites a laissé tomber son dictionnaire. Ce bruit a fait tressaillir la pauvre femme comme une détonation. Elle avait l'air terrifiée. Ses nerfs sont sérieusement atteints. Il faudrait la décider à voir le docteur.
Essayez vous-même.
Mistress Elmother fut immédiatement appelée.
« Mistress Elmother, dit Miss Ladd, depuis quelques jours, je vois avec regret que vous êtes souffrante. »«
De ma vie, je n'ai été souffrante, madame. »«
On m'assure que vous n'avez aucun appétit. »« Je n'ai jamais été grosse mangeuse.
Pour me tranquilliser, ne me feriez-vous pas le plaisir de voir le docteur ?
Le docteur ? Vous pensez que je vais me mettre à mon âge à avaler des drogues ?
Seigneur ! Madame, vous plaisantez, bien sûr.
Elle éclata de rire, de ce rire nerveux si voisin des larmes. Par un violent effort de volonté, elle réussit à se dominer et reprit
« S'il vous plaît, madame, ne vous moquez plus de moi !»
Puis elle disparut.
« Qu'en dites-vous maintenant ? » fit Miss Ladd.
« Je ne sais que penser, » dit Francine.
Laissée seule, Francine mit ses coudes sur la table, sa figure dans ses mains, et réfléchit profondément. Elle ouvrit son bureau, prit une feuille de papier, puis hésita de nouveau. Tout à coup, comme si la décision lui revenait subitement, elle écrivit d'une main active les quelques lignes suivantes, adressées à la femme de l'agent de son père, à Londres.
Lorsque j'ai été confiée à vos soins, la nuit de mon arrivée des Indes occidentales, vous avez bien voulu me dire que vous me rendriez volontiers quelques menus services, pour peu que cela dépendît de vous. Or, je vous serais infiniment obligée si vous pouviez m'acheter et m'expédier dans le plus bref délai assez de cire à modeler pour faire une petite statuette.
Assez de cire à modeler pour faire une petite statuette.